Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Michael Ferraille, salut Michael,
yeah et bonjour à tous.
On vous fait, devinez quoi?
Un tire-toi une bûche.
Tire-toi une bûche numéro
4.
Ouais c'est ça, c'est 4. Ouais, ça fait 4. Un moment, la dernière fois qu'on l'a fait c'était à Miami, c'était en janvier 2014.
Oui.
Et là on est en novembre 2014, on est actuellement Web2 Connect dans la fameuse école 42 qui a été créée par Xavier Niels.
Oui.
Et on s'est dit, voilà, Michael était là, moi aussi, on s'est dit, hey, faisons un tire-toi une bûche. Après tout, nos fans en délire attendent désespérément qu'on leur fasse tirer une bûche.
Comment témoignent les nombreux
très nombreux emails. Alors surtout arrêtez de nous écrire par rapport à ça,
oui,
parce
voilà.
qu'on
n'en a trop. On veut plus d'emails sur ce sujet.
Voilà, s'il vous plaît. Donc on va faire comme d'habitude, on va parler un petit peu de l'actu. Alors pour ceux qui n'ont jamais vu tire-toi une bûche, je me dis mais c'est quoi ce truc tire-toi une bûche, hein, on a déjà fait 3 vidéos avant puisque c'est le 4e. Et justement, on parle un petit peu de l'actu. Michael Ferrari est notamment connu pour son blog Esprit Riche. Et moi, donc, Olivier Roland pour mon blog Des livres pour changer de vie. J'en ai d'autres aussi, voilà. Donc on parle un petit peu de notre actu, on échange et c'est sympa. C'est
exactement.
De manière très conviviale. Je vais dire non prise de tête, bref.
Voilà.
Ça commence très bien, allez.
C'est bien parti.
C'est bien parti.
Et okay. C'est presque en direct.
C'est presque en direct que donc on va continuer. Alors parle-nous un petit peu de ton actu, Michael. Donc depuis janvier, qu'est-ce qui s'est passé?
Beaucoup de choses. Depuis janvier, pour les gens qui suivent mon blog, c'est évident, mais depuis janvier, j'ai notamment acheté mon premier immeuble.
T'as acheté ton premier immeuble, tu veux dire ton immeuble entier.
L'immeuble
entier. Parce que tu avais déjà acheté ton premier appartement.
Voilà, j'avais déjà un appart depuis plusieurs années. Et là, l'idée, c'était d'acheter un immeuble complet.
Waouh,
voilà.
Tu te dis maintenant il faut que je passe au niveau d'après.
Ouais, voilà, ça semblait une bonne étape suivante quoi.
Ok.
Donc ça m'a occupé quelques mois. Parce que c'est toujours un peu long hein, les démarches immobilières. C'est pas forcément consommateur de temps, mais ça prend du temps à se mettre en œuvre.
Ça prend du temps. Bon, voilà. En ce moment je suis en train d'investir dans les appartements. La banque elle met 3 ans.
Voilà, c'est des choses comme ça.
Des mois envoyer des papiers.
Il m'est arrivé des trucs extraordinaires avec la banque comme à chaque fois. Avec les... c'est toujours plein. Alors si vous voulez avoir des histoires à raconter quand vous serez vieux, investissez dans l'immobilier, vous allez avoir toujours des super histoires. Il s'est passé plein de trucs avec la banque, même sur les montants, les erreurs. Le notaire s'est trompé. Enfin des trucs assez.
Génial.
Assez amusants. C'est amusant, mais au final tout s'est bien terminé, donc c'est en place. Donc tu vois, c'est
notamment... d'autant plus important que tu parles d'indépendance financière sur ton blog et que tu montres que tu appliques les conseils que tu donnes. Quoi.
Bien sûr, bien sûr. Et voilà. Et puis là, l'avantage avec un immeuble, c'est que du coup, il y avait 7 logements.
Oui. Donc 5 appartements d'un coup qui sont tous à toi.
7, ouais.
7 à 7. Wow.
7 d'un coup. Il y a aussi une dépendance attenante à l'immeuble.
Oui.
Qui permet. D'avoir un truc à rénover, donc la dépendance n'est pas habitable aujourd'hui, mais elle fait 100 mètres carrés et tout l'extérieur est fait. Donc ça, tu vois, c'est un potentiel de plus-value assez intéressant aussi.
Tu as fait ça dans quel coin alors de France?
Alors c'est dans l'ouest de la France, à côté d'Angers.
Wow. Voilà,
donc c'est pas dans un centre-ville de grande ville, hein, évidemment, parce que je voulais avant tout la rentabilité, et c'est vrai que globalement, vous avez plus de chances d'avoir de la rentabilité quand vous n'êtes pas dans une grande ville que... quand vous êtes à la campagne ou dans des villes plus petites. Il est plus facile de trouver des rentabilités, il n'y a pas de règle absolue, mais voilà, c'est quand même un bon cadre de référence de faire comme ça. Et voilà, donc tu vois, il y a notamment ça, quoi. Donc je suis assez content de ça. Donc montage financé, c'est pareil, hein, à 110%, c'est-à-dire que la banque paye les frais de notaire, paye tous les frais
d'acquisition. Avancé exactement 0,00 €.
Alors pas exactement, parce que j'ai mis... il y a les frais de dossier que j'avais pas fait financer, donc il y a 300 euros de frais de dossier.
Ah, tu as dû payer 300 euros ton immeuble, alors c'est vrai que c'est pas un
Il y a des petites choses, mais bon, globalement, voilà, une belle opération.
Bravo.
Je suis content de ça.
Moi, je suis propriétaire que de mon appart, ma résidence principale avec 2 apparts là, et le reste, oui, mais tu as très pris de l'avance pour l'instant, bravo. Waouh. Là, un immeuble complet, c'est vrai que ça, d'un coup, ça calme.
Quoi. Ouais, ouais, puis c'est le côté sympa avec un immeuble, c'est que c'est toi qui gères, il n'y a pas de syndic,
c'est toi qui te coupe de tout.
Bah oui.
Donc ça réduit les frais,
tu peux vraiment décider, optimiser aussi, c'est-à-dire que tu vois, si le locataire te dise, nous, on se met d'accord pour faire le ménage une fois par mois dans les parties communes, ils se mettent d'accord parce que ça a les avantages, ils payent moins de charges. Puis toi, si tu es d'accord, tu fais comme ça, et puis le jour ça marche pas, tu dis, je mettrai quelqu'un qui va passer le faire. Enfin, tu vois, tu décides entièrement du truc, donc ça c'est bien.
Ça
c'est un
super.
Truc que j'apprécie. Il y a le contrôle, tu vois, c'est la notion de contrôle dans l'immobilier qui est importante, et tu l'as de plus en plus si tu n'as pas de syndic, quoi. Donc voilà.
Est-ce que, à contrario, parce que c'est aussi la question que je me posais, parce que je me demande si je ne vais pas investir dans un immeuble aussi, est-ce que tu n'as pas quand même le fait que tu mets tous tes risques au même endroit? Genre, s'il y a un incendie, tu perds tout. oui, par exemple. Non, mais ça, ou tu as un tremblement de terre, par exemple. On sait que c'est rare en France.
Mais... Bien sûr, non, mais c'est vrai, tu as raison de le mentionner. Hein. Tu concentres tes risques d'une certaine manière. Après, tu es assuré contre ce genre de problème aussi. Hein.
C'est vrai.
L'avantage, c'est aussi que tu... si je prends le problème dans l'autre sens, le problème, c'est que quand tu investis dans plein de villes différentes, bah, tu ne peux pas forcément suivre tous les marchés ou connaître bien tous les marchés.
Oui.
Quand tu as un immeuble, tu sais à un endroit et c'est important pour toi dans ton patrimoine, donc tu vas le suivre. Tu vois, tu vas faire attention à ce qui se passe dans cette ville en particulier là, et autour, et l'évolution. Donc tu vois, tu peux aussi le prendre dans les deux sens. Ça te permet de te focaliser dans un suivi plus précis. Quand tu commences à avoir 5, 6 appartements qui ne sont pas au même endroit ou dans des mêmes quartiers, dans une ville, bah, tu peux pas tout suivre forcément avec autant d'attention. Quoi.
Ouais, c'est vrai que ça permet de concentrer son attention sur des points ouais. clés, des villes clés que tu connais ouais. bien. Ok, ouais, intéressant.
Voilà. Donc voilà.
Alors comment tu te sens maintenant que tu as un immeuble à toi ?
Content, c'est bien. Bon, okay, il est surtout okay. à la banque pour le moment,
ouais, hein,
comme
ouais.
on dit, mais,
ouais, ouais.
mais non, c'est bien, c'est super sympa. Voilà, il y a 2500 euros de rentrée mensuelle. Voilà.
Le
crédit, il a 1700. T'as un bel écart entre les deux. Il y a des frais évidemment de gestion et tout ça, mais ça reste en positif. Donc voilà, ça roule.
Alors, ce qui est aussi ça extraordinaire, et c'est finalement la méthode que tu défends, la méthode que défend Olivier Seban notamment, c'est que là, Mickaël se crée un capital et une source de revenus à partir de rien. Ça tombe, enfin, si, à partir de tes compétences, mais je veux dire, à partir de rien en termes d'argent. C'est vraiment, c'est-à-dire que tu utilises l'argent des autres, c'est-à-dire l'argent de la banque. Qui va financer ton prêt complètement, y compris oui. les frais de notaire. Bon, tu as dû mettre 300 euros de frais de dossier, voilà, la belle affaire. Et derrière, c'est le locataire qui rembourse le prêt et qui en plus te font gagner un bénéfice. Et toi, finalement, à la fin, au bout de 20 ans que ton prêt est remboursé, tu t'es constitué un capital sous forme d'un immeuble qui va continuer à te rapporter de l'argent, donc une source de revenus indépendante, qui en plus est assez sécurisée. Enfin, je veux dire, faudrait vraiment qu'il se passe une catastrophe pour qu'elle disparaisse. Et qui, en plus, est vraiment très très peu lié au temps que tu vas passer dessus. Tu peux avoir quelqu'un, je suppose que d'ailleurs tu as quelqu'un qui s'occupe de ça.
C'est délégué.
Tu es passé par une société qui fait de la gestion locative.
Oui, moi je ne peux pas m'en occuper, j'ai pas le temps. De toute façon,
voilà,
de
ça. Si ça se négocie auprès d'une banque, vous pouvez très bien faire financer à 100%, voire 110% votre prêt.
Oui, ça c'est le gros avantage de l'immobilier, c'est ça.
Vous pouvez constituer un capital de zéro comme ça, voilà. C'est génial.
Ça c'est vraiment.
Et les locataires derrière, tu as surgi une belle affaire qui te rapporte plus que ce que ça te coûte, vous y arrivez.
Oui.
Et. C'est vraiment de l'argent qui tombe du ciel, quoi.
Oui. S'il y a vraiment un conseil à retenir dans l'immobilier, c'est que à minima, il faut au moins que le bien soit autofinancé. Ce qu'on appelle autofinancé, hein, c'est quand ta mensualité est équivalente au loyer.
Voilà.
C'est vraiment le minimum.
Il y a trop peu de gens qui font.
Voilà. C'est-à-dire que là, déjà, en étant comme ça, vous faites pas de bénéfice parce qu'il y a des charges qui vont venir diminuer la somme que vous percevez, mais au moins
plus les impôts.
Vous n'en êtes pas très loin, quoi. Au moins, voilà. Mais pas ne pas commencer avec un crédit qui est supérieur, tu vois, de 200, 300 euros au loyer que tu loues, quoi. Parce que là, tu es sûr que tu ne seras jamais rentable tant que le bien aura un crédit à payer, quoi, tu vois.
Et donc, tu les loues en meublé, tes appartements ?
Non, là, ils ne sont pas en meublé, ils étaient en nu. Et comme j'ai acheté un immeuble occupé,
tu ne peux pas changer le statut comme ça.
Non, mais je vais les changer au fur et à mesure quand les locataires
vont. Parce que c'est beaucoup moins intéressant quand c'est pas meublé. C'est plus.
Fiscalement, c'est plus lourd. C'est moins intéressant quand la location nue est plus lourdement taxée, quoi, globalement. Donc je les changerai, tu vois, je les ferai évoluer au fur et à mesure. Je les ferai évoluer en les passant en meublé, quoi, tranquillement, mais avec le temps. Donc, du coup, ça ne va pas se faire là, forcément, dans l'année, parce que les locataires sont pris plutôt bien, donc ils ne vont pas partir. Et ça, c'est aussi un truc important que j'ai beaucoup apprécié en allant visiter, tu vois, cet immeuble, c'est qu'il y avait tous les locataires. Donc, j'ai pu discuter avec eux, leur poser des questions de base, comme est-ce que vous êtes bien ici, quoi, est-ce que le logement vous plaît, super. Cet immeuble vous plaît, est-ce que, tu vois, donc, et ça, c'est vraiment important. Enfin, je vais faire le lien avec la suite de l'actualité, qui est la formation que j'ai sortie, qui s'appelle l'Académie Escrèche,
oui.
où j'enseigne les bases de l'indépendance financière. Et donc notamment l'immobilier. Et dans l'immobilier, je sais qu'au début, on peut avoir peur d'investir, surtout la première fois.
Oui, c'est normal.
Parce que c'est abstrait, on entend des choses, même si on s'est renseigné, qu'on a lu des bouquins, tu vois, mais ça reste encore abstrait. Et une des manières de rendre ça concret, c'est d'aller parler justement aux gens, aux locataires, d'aller parler aux gens qui font de l'immobilier, tu vois, de mettre du concret, de mettre du contact par rapport à des opérations immobilières. Parce que c'est presque tout sauf des opérations financières, en fait. Le financement, c'est qu'une partie de l'investissement, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Il y a comment tu penses ton opération, où ça se situe, avec qui. le qui est très important dans l'immobilier, parce que tu fais jamais ça seul.
Oui, tu as toujours des partenaires, au moins voilà, la banque et puis la banque, société de gestion locative.
Il y a souvent un agent immobilier qui est au milieu, il y a de la gestion, il y a peut-être des travaux, enfin tu vois, il y a tout ça. Donc voilà, mettez du concret. La seconde partie de mon actualité, puisqu'on est là, c'est l'Académie Esprit Riche.
Oui.
Donc, programme sur, alors là, c'est sur plus de 6 mois, sur l'indépendance financière avec les fondamentaux, donc la bourse, comment investir en bourse, comment investir dans l'immobilier, comment créer une source de revenus complémentaire à son travail, donc notamment avec Internet. Mm-hmm. Et puis après, toutes les autres formes de placement, donc comme l'or, l'argent, les terrains, voilà, tous ces placements complémentaires. Donc l'idée, c'est que les participants à cette formation puissent vraiment prendre en main leur indépendance financière, puissent poser des briques, puissent réaliser des actions concrètes pour être de plus en plus financièrement indépendant. Donc je suis là-dedans, je suis dans ce programme, puis j'accompagne un groupe.
On te sent passionné par ça.
Ouais, j'adore.
Tu viens le lancer là en fait.
J'adore ça. Non, alors c'était en juillet, je crois.
D'accord.
Juillet, tu vois.
Parce que tu es aussi l'auteur, on le rappelle, le co-auteur, on va dire, du livre Devenez riche.
Oui.
Puisque là-bas, c'est un livre américain qui est écrit par Rami Sethi.
Exactement.
Le fameux blogueur de quel blog déjà ?
I Will Teach You to Be Rich.
I Will Teach You to Be Rich. Et donc tu l'as adapté en France parce qu'il y avait besoin d'être adapté, c'était trop américain.
Trop américain, mais voilà.
Donc en tout cas, c'est un sujet qui te passionne depuis longtemps.
Oui,
d'où le blog Esprit Riche, je veux dire.
Oui, oui, c'est un truc qui me tient à cœur. Ça, pour moi, c'est un des fondamentaux de la liberté. Tu vois, tu peux pas te dire libre si financièrement tu n'es pas.
C'est compliqué,
tu
as beaucoup plus de contraintes.
Voilà, ouais. donc c'est un sujet qui me tient à cœur. D'autant que
là, tu as démarré, tout flamme.
Ça sent. Et puis l'actualité économique, financière en France ne fait toujours que confirmer ça. Tu vois. Parce que quand tu regardes le dessous des cartes, comme on dit, c'est assez inquiétant de voir, en tout cas, la gestion publique. Je parlerai que de ça.
Je compte pas sur le gouvernement pour ma retraite. Hein.
Parce que ce qui est intéressant toujours là-dessus, c'est que les gens, les entrepreneurs, les gens qui travaillent, ils n'attendent pas après le gouvernement pour travailler. Tu vois. Ils font leur truc. Mais seulement derrière, c'est mal géré.
Et d'ailleurs,
c'est ça qui est frappant.
Et puis, je partageais ça aussi dans une vidéo. C'était, je ne sais plus qui disait ça. C'était je crois que c'était Jacques Attali qui avait dit ça quand il y a eu, je ne sais plus par rapport à quoi, il y a quelques mois. Il avait dit, vous devez faire comme le pari de Pascal pour les entrepreneurs, c'est-à-dire vous devez faire comme si le gouvernement n'allait rien faire pour vous. Parce que dans tous les cas, vous êtes gagnant. Parce que si le gouvernement ne fait rien, au moins vous avez agi pour vous et vous avez apporté de la valeur pour vous et pour les autres. Si le gouvernement agit, vous avez un truc pour vous, mais en plus vous avez les fruits de votre travail. Donc dans tous les cas, vous faites comme si le gouvernement allait rien faire pour vous et vous êtes tout le temps gagnant. Il a complètement raison.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est comme, quand tu repenses au rythme scolaire, pour faire un parallèle. Tu vois, t'as des classes avec des niveaux,
ouais.
Mais il n'a jamais été écrit quelque part que tu devais suivre le rythme qui t'est imposé.
Mais il y en a qui sautent des classes.
Il y en a qui sautent des classes. Ouais. Il y en a qui apprennent le programme de l'année suivante dès qu'ils arrivent dans l'année d'avant. Quoi.
Oui, c'est vrai.
Et c'est pareil quand on parle d'indépendance financière. Tu peux très bien dire, moi, le programme 60 ans, 65 ans ou 70 ans, finalement, c'est peut-être pas ce qu'il me faut. Donc peut-être que je peux m'organiser.
Et je pense que vous êtes beaucoup à nous regarder qui n'êtes pas forcément emballé par le « Hey, passe ton diplôme, puis fais du métro, boulot, dodo, jusqu'à ce que tu aies finalement 80-90 ans, parce que ce sera sans doute l'âge de départ à la retraite au moment où vous serez à la retraite.
Ouais. »
Si ça n'a pas explosé, à mon avis, ça aura explosé d'ici là, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc voilà, bref. En tout cas, l'indépendance financière, c'est vraiment un sujet qui devrait tous nous intéresser.
Voilà, c'est un moyen de reprendre le contrôle et c'est un moyen de… Et puis, c'est un sujet que je trouve aussi passionnant. Quoi.
C'est intéressant.
Parce que tu touches à la psychologie. Quand tu es dans l'immobilier, tu es face à tes propres peurs. Enfin, t'en es quand même là. Quand tu dois signer la première fois chez le notaire…
Oui, je me rappelle, c'était pas…
Voilà, c'est jamais facile. Hein. Même si tu t'es formé avant, même si tu sais ce que tu dois faire, il y a toujours un moment. Donc voilà, ça fait avancer aussi, personnellement. Donc voilà, je suis avec tout ça. Et puis, dernier point, c'est la sortie de mon livre en septembre.
Ah,
stop à la procrastination.
Alors, as-tu arrêté de procrastiner ?
J'ai arrêté de procrastiner depuis que j'ai sorti le livre.
Ok. Bon, tu ne fais pas comme tous ceux qui disent « Hey, j'ai arrêté de procrastiner demain. » Voilà. Là, ils n'ont pas tout compris.
Ou alors, je lirai ton livre, mais demain.
Ouais, c'est ça. Et là, tu fais… Ok, donc ça va, alors ça s'est bien passé, le lancement ?
Très bien passé. Après, j'attends les chiffres.
Tu n'as pas encore les chiffres ?
Non, c'est toujours difficile avec les éditeurs d'avoir les chiffres en temps réel.
Donc chez quel éditeur c'est sorti ?
L'édition Le Duc.
L'édition Le Duc, qui sera aussi celui qui va publier mon bouquin.
Exactement.
Le jour où il sortira.
Exactement.
On va pas donner de date parce que
on en parlera après. Moi je m'étais dit que bon, ok, on en parlera après.
On en parlera après.
Et voilà, donc le livre est sorti, j'ai eu un bon accueil, en tout cas des lecteurs, pas mal de gens qui m'ont écrit. Je trouve ça intéressant maintenant en plus d'avoir ça. Et voilà, c'est aussi une étape importante pour moi quoi, d'avoir sorti ce sujet-là sur la
procrastination. C'est ton premier livre que tu as écrit tout seul qui sort sur chez un éditeur classique.
Papier, ouais, ouais, ouais.
Voilà, tu avais déjà écrit des livres numériques.
Oui.
Mais voilà, donc comment devenir riche, tu es co-auteur, là, tu es vrai auteur à 100%.
Voilà, il y a
wow,
comment
c'est du
sur
pur
le, sur
Michael
la pochette.
Ferrari.
Okay. Du 100% pur jus, voilà.
100% pur jus.
Voilà, et puis c'est déjà pas mal.
Super, ouais.
C'est déjà pas mal.
Belle actu. Alors, ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis janvier?
Que s'est-il passé?
Ah, bah déjà, je suis parti 2 mois aux Philippines. Hein. Waouh, c'était génial. J'ai commencé un défi d'une vidéo par jour. Comme on publie cette vidéo sur ma chaîne, parce qu'en fait, une fois sur deux, on publie sur la chaîne de Mickaël et une fois sur moi. Ça, normalement, c'est sur ma chaîne. Donc voilà, ça fait exploser la chaîne YouTube. Je suis très content. Le trafic est multiplié par, je sais pas, 6. Le nombre d'abonnés aussi. À chaque fois que je vais à des événements comme ici au Web de Connect ou le congrès des infopreneurs, oui, j'étais aussi au séminaire d'Aurélien Macœur, il y a tout le temps des gens qui viennent me voir en me disant waouh, Olivier, c'est génial tes vidéos. Je regarde tes vidéos tous les jours, il y en a qui me disent tous les matins, prenant mon café, je regarde tes vidéos. Je me dis c'est génial quand même. Je fais partie de la vie des gens, quoi. Donc ça, ça me fait vraiment plaisir. C'était parti sur un petit défi comme ça, un petit peu. Allez, on va voir si j'arrive à faire ça à l'autre bout du monde avec une connexion pourrie avec ma petite clé 3G.
Et le défi, c'était d'arriver à en faire une par jour, c'est ça?
Une par jour pendant les 60 jours où j'étais aux Philippines. Et non seulement j'ai réussi à le tenir, mais j'ai trouvé ça tellement génial que j'ai...
T'as continué?
Que là, il doit y avoir la 275e qui a été publiée hier, enfin qui va être publiée aujourd'hui, ou voilà. Enfin, d'affilée, j'ai pas loupé un seul jour. Et merci à vous, public, parce que c'est aussi grâce à vous, à votre soutien, et parce que ça continue à exploser, et c'est génial, merci beaucoup. Donc ça, je suis très très content.
D'accord, donc t'as lancé ta carrière de YouTuber là?
Bah ouais. Avant, je faisais ça un petit peu, enfin, j'avais pas vraiment de stratégie YouTube, je faisais vraiment ça à côté, ouais. Voilà.
Voilà, là, c'est vraiment...
Là, c'est vraiment... ça me passionne maintenant YouTube, j'adore ça, je me suis formé sur plein de trucs et j'espère bien, là on a dépassé le 1 300 000 vues là, il y a quelques jours.
Waouh, super.
Et je pense qu'en 2015 on va tout casser la bagarre grâce à vous, donc ça va être super, ça va être génial. En tout cas, je vous tiendrai au courant de ça. Sinon, donc Voyage Philippines YouTube, c'était génial. Mon bouquin, tout le monde me pose toujours la question. Ah, à chaque fois que je fais aux événements, la deuxième question après, hey, c'est génial YouTube.
Je te l'ai pas posé. Hein.
Je te remercie, Mickaël. Mais donc, moi, j'ai énormément avancé sur mon livre. J'ai dû écrire depuis janvier plus d'une centaine de pages largement. Et quand je dis une centaine de pages, c'est au format A4. Hein, donc, c'est pas des petites pages.
Je peux dire, c'est le format A5.
Avec trois mots dessus. Hein, c'est vraiment des pages. Et là, il est quasiment terminé. Je suis à 363 pages A4 aujourd'hui. Donc, ça commence. Voilà, ça doit faire du 700 pages dans un bouquin au format classique. Donc, c'est énorme. Je crois que je vais devoir tailler dedans. Je pense qu'il me reste encore 10%, 30 pages à faire et c'est fini. Après, je vais rajouter des études de cas. Je vous enverrai un email à tous ceux qui sont inscrits à ma liste pour vous inclure. En fait, si vous avez une histoire intéressante, vous inclure dans le livre. Hein, je donnerai les cas qui m'intéressent. Et derrière, je vais devoir tailler un petit peu, je pense. Et je suis quasiment sûr à 95% qu'il sera publié en 2015. Je ne peux pas donner de date précise, mais 2015, c'est quasi certain.
Ça semble un peu rapide pour 2014 quand même.
Oui, 2014, c'est un petit peu compliqué. Ça, c'est clair. Mais voilà, je suis très content.
Okay,
ça fait 2 ans là. Ouais. Ça va faire 2 ans dans un mois que j'aurai commencé le livre.
Sans, il faut le temps qu'il faut. Hein.
Il faut le temps qu'il faut. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment apporter énormément de choses sur les livres. Je pointe vraiment les limites du système éducatif français, il y en a beaucoup. Comment les contourner et hacker sa propre éducation en s'auto-éduquant.
D'accord.
Et puis derrière, comment créer son entreprise en minimisant les risques au maximum, tout en ayant à côté son job ou en faisant sa carrière entre guillemets d'étudiant. Ça va être un sujet passionnant, je pense.
D'accord.
Donc voilà.
Waouh.
Ouais, donc enfin, plein de choses. Après, j'étais à Burning Man, c'était super.
Nous en dire deux mots alors?
Festival dans le désert du Nevada. Tous les ans, depuis 86 et des brouettes, 75 000 personnes qui sont tous à moitié nus avec des costumes complètement extravagants, des œuvres d'art partout, de la musique partout.
T'avais quoi comme costume alors?
Alors moi, je m'étais habillé de manière plutôt classique, comme vous avez pu voir si vous avez vu les vidéos. Mais
c'était le jour, ça.
C'était le jour, il y avait la nuit. Oui, c'est un peu deux mondes différents. La nuit, c'est incroyable parce qu'il y a toutes les lumières qui s'illuminent, tout est éclairé par des LED. C'est,
ouais.
C'est génial, quoi. Et waouh, c'est vraiment, pour en dire juste deux mots, tout le monde devrait y aller au moins une fois dans sa vie parce que c'est un endroit où il n'y a aucun jugement. Et on peut essayer d'être le plus fou, le plus extravagant possible, on trouvera toujours quelqu'un de plus fou et de plus extravagant que soi, c'est clair. Et on est libre d'expérimenter notre nous-mêmes, d'être plus nous-mêmes dans tous les domaines de la vie. que ce soit l'expression artistique, juste l'expression de soi, l'expression, ressentir les émotions, ou même tout simplement, même le sexe, même des choses aussi basiques entre guillemets que le sexe, c'est vraiment extrêmement libre et extrêmement fun. Je le recommande à tout le monde. Il y a des mille et une manières de vivre Burning Man. C'est juste génial. Waouh.
Ok.
L'expérience d'une vie. Okay, voilà, okay. Donc voilà pour mon actu. Bon, je pourrais continuer longtemps, mais c'est l'essentiel. C'est l'essentiel.
D'accord.
Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait d'habitude aussi ? On parle un petit peu des bouquins qu'on a lus.
Ouais.
Alors, est-ce que tu as un, deux, trois livres à recommander que tu as lus depuis janvier qui sont vraiment super ?
Oui, il y en a un en particulier qui m'a bien plu. Mm-hmm. C'est un bouquin qui s'appelle Connectez-vous à vous-même.
D'accord.
Donc, c'est un gars dont j'ai oublié le nom. Bon. Mais vous allez retrouver la référence, on la mettra sous la vidéo.
Ça a été traduit en français donc.
Ça a été traduit en français, donc c'est le 100e employé de chez Google qui écrit ce bouquin, donc d'où l'idée de connectez-vous à vous-même.
D'accord.
Et avec qui reprend les couleurs du logo de Google.
Ah, ok.
Et en fait, c'est quelqu'un qui a été nommé, au début c'était un ingénieur, puis il a été nommé, qui s'appelle Chief Happiness Officer.
Ah, mais donc, j'ai entendu parler de
voilà, la personne en charge du bonheur dans l'entreprise. Et en fait, il explique comment il a mené au début des ateliers. Et donc, il t'explique en gros la méditation, par exemple. Mais avec, il la rationalise. Il t'explique pourquoi scientifiquement c'est intéressant pour un ingénieur de faire ça. Mmh. Donc, il dit que ce qui était intéressant dans son boulot, c'est que ça l'a obligé à expliquer concrètement et de manière rationnelle pourquoi méditer c'est bien. Et que donc, il a mis en place des ateliers. Donc, il y a des personnes qui sont inscrites. Et en fait, il a pu les suivre sur des années. C'est ça qui est intéressant. Et donc, le bouquin est super bien fait pour déjà comprendre ce que c'est la méditation. C'est une approche très pragmatique de la méditation. Et puis, avoir des exercices, tout simplement pratiques, là aussi, comment je médite. Et donc, il explore plein de facettes, évidemment, différentes hein, de la méditation. Et puis, j'allais presque dire de la relation à soi. Quoi. Tu vois, c'est comment tu te poses et comment t'es plus heureux dans ta vie. Voilà, et puis il explique, moi j'ai beaucoup apprécié ce livre parce qu'il explique en fait comment chez Google il y a eu plein de bénéfices un peu inattendus autour de son expérimentation. Au départ c'était vraiment une expérimentation, mais en fait que voilà, il y a des personnes qui se sont révélées, il y a des personnes qui voulaient partir parce qu'elles étaient plus satisfaites et en fait elles se sont rendues compte que c'est dans leur vie perso que ça allait pas, donc elles ont pu corriger ça grâce à son travail et puis donc être plus intéressé par le boulot qu'elles font. Enfin, tu vois, il y avait plein de choses qui, autour des ateliers qu'il a animés pendant des années. Quoi. Donc voilà, c'est un bouquin qui m'a marqué, qui m'a bien plu.
Waouh.
Et dans un autre registre, rien à voir, un bouquin sur les dividendes.
Sur les dividendes.
Qui s'appelle,
il y a un bouquin là-dessus.
Ah oui, il y en a plusieurs.
Quel est le super bouquin que tu...
Le bouquin s'appelle, alors je crois que c'est Get Rich with Dividends. Donc, devenez riche avec des dividendes.
Plus simple que ça, tu peux pas. Enfin, voilà. Ça va vraiment droit à l'essentiel.
Voilà.
Le titre.
Et donc,
c'est un livre américain, mais ça s'adapte aux dividendes en France.
Oui, globalement, ça s'adapte. Alors, il y a toujours des ajustements à faire, mais ça s'adapte. Et donc, l'auteur explique que sa stratégie d'investissement en dividendes, voilà, qui est une des stratégies que je pratique.
Oui, parce tu m'as toi-même conseillé sur un tracker de dividendes.
Oui.
Ouais, tout à fait.
Voilà, une stratégie qui est vraiment intéressante, je trouve. Donc ce bouquin-là, c'est une très très belle synthèse. Enfin, si vous lisez l'anglais et que vous êtes intéressé à l'investissement par les dividendes, c'est un très bon moyen de lire en lisant ce livre.
Donc, tu as changé ta stratégie un petit peu ?
Belle synthèse. Non, mais ça m'a donné une vision un peu plus globale encore. Avec des critères, tu sais, quand tu investis dans les dividendes de manière assez traditionnelle, un des critères de base, c'est t'assurer que la boîte dans laquelle tu investis est capable de verser le dividende sans se mettre en danger. C'est-à-dire, c'est la pérennité du dividende.
D'accord.
C'est-à-dire, si tu prends, pour prendre un exemple, Total, et que Total, il lui reste, on va dire, 100 euros à la fin de l'année, et qu'elle te verse 100 euros de dividendes, tu sais que c'est pas durable. Parce que dès que son chiffre d'affaires va baisser pour une quelconque raison, elle ne pourra plus te verser tes 100 euros de dividendes. Donc il y a cette question de la pérennité, et donc il explore beaucoup ça. Beaucoup quelle est la marge de manœuvre, de sécurité que tu prends pour t'assurer que l'entreprise verse son dividende de manière pérenne. Et puis il y a toute cette notion autour de ce qu'on appelle les dividendes d'aristocrates, enfin toutes ces boîtes qui versent un dividende déjà depuis plus de 10, 15, 20, 25 ans. Mmh. Et pour certaines, le dividende augmente chaque année depuis 10, 15, 20 ou 25 ans.
Wow, ok.
Voilà, donc il explore tout ça. Donc un bouquin très intéressant.
Waouh, super.
Voilà.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal.
Ouais.
Ok, alors, Qu'est-ce que j'ai lu comme livre intéressant depuis janvier? Bon, le premier qui vient à l'esprit, dans un autre registre aussi, c'est le fameux Guns, Germs, Steel, que tu connais peut-être?
Non.
Donc, ce qui se traduit littéralement donc, par fusil, microbe et acier. Et ça a été traduit sous, en français sous un titre qui est extrêmement pompeux et ennuyant, et dès qu'on l'entend, on a envie de s'endormir. En fait, c'est de l'inégalité dans les sociétés. Humaine, quelque chose comme ça. Oui, donc là on se dit waouh.
C'est quoi le lien entre les...
Il faut un doctorat en coupage de cheveux en 4 pour pouvoir comprendre.
C'est pas la même promesse là. Hein,
de... Mais c'est... En fait, ce livre a été vendu à plus d'1 million d'exemplaires aux États-Unis. C'est un livre d'un historien qui est aussi connu parce qu'il a écrit le livre Effondrement, comment les civilisations s'effondrent, mais ça c'était après. Et en gros, il se pose la question de. Mais en gros, il part de cette question simple. Pourquoi c'est les Européens qui ont conquis les Amériques et tout le reste du monde et pas l'inverse? Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les facteurs? Et ce livre est absolument génial. J'avais déjà parlé d'un livre qui s'appelle Civilisation de Ferguson, qui justement s'attache vraiment spécifiquement à ce problème de pourquoi dans l'Europe, d'ailleurs c'est les Espagnols, les Anglais et les Portugais qui ont conquis l'Amérique et puis quelques autres Européens le reste du monde et tous les autres n'ont rien fait. Mais lui c'est carrément pourquoi voilà, les Africains se sont fait démolir, les Américains se sont fait démolir, les Guinéens, les Australiens se sont fait démolir. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels ont été les facteurs? Et c'est un livre extrêmement passionnant. Après on peut se poser la question, est-ce qu'un entrepreneur a besoin de lire? Soit besoin, je pense pas, mais ça nous ouvre toujours des horizons de s'intéresser un petit peu à l'histoire parce qu'on se rend compte de quels ont été les facteurs qui ont contribué à notre société aujourd'hui. On plonge aussi avec l'histoire dans des sociétés qui avaient des normes très différentes des nôtres et qui trouvaient ça normal et qui avaient donc des normes qui nous paraissent horribles et qui étaient normales pour eux et inversement. Et du coup, ça nous fait relativiser un petit peu l'importance de nos propres normes. Et aussi, bon, c'est passionnant ce livre parce que. Voilà, il dit par exemple un truc tout bête auquel j'avais jamais pensé. Il dit voilà, ce qui a avantagé le continent eurasiatique par rapport au continent américain ou ce qu'il appelle le continent africain parce qu'il y avait voilà, c'était séparé par le désert en fait. Il prend le nord de l'Afrique, il l'inclut dans l'Europe et l'Asie et il sépare ensuite le reste parce que c'est très difficile aux hommes de passer le cap. Donc il dit voilà, l'Afrique et les Amériques c'est des continents verticaux alors que le continent eurasiatique il est horizontal et ça fait une énorme différence dans la facilité de diffusion des technologies. Et des idées. Pourquoi? Parce que déjà l'agriculture, c'est beaucoup plus facile pour elle de se répandre de manière horizontale. Pourquoi? Parce que par exemple, toutes les céréales majeures qu'on consomme aujourd'hui ont été à la base domestiquées entre guillemets dans le croissant fertile au Proche-Orient. C'est le blé, l'orge, ce genre de trucs. Et du coup, elles se sont diffusées après d'est en est, à l'est et à l'ouest à des latitudes à peu près semblables où elles s'étaient facilement adaptées. Alors qu'il expliquait que aux Amériques, c'était très difficile. Il y a eu le maïs qui a été développé au Mexique, mais il n'est jamais arrivé en Inde parce que tout simplement, c'est beaucoup plus difficile d'aller au sud parce que le climat change extrêmement vite et du coup, le maïs n'était pas adapté à ces latitudes-là. Et il explique que c'est un des facteurs qui a contribué au fait que les Amériques étaient très en retard technologiquement par rapport au continent eurasiatique parce que voilà, c'était un des facteurs majeurs. Quand on n'a pas l'agriculture qui se développe de manière importante, forcément, ça retarde énormément l'évolution des technologies. Pareil, on a eu énormément de chance parce que comme le continent était plus grand, il y avait plus d'espèces animales, donc plus de chances de domestiquer des grands mammifères qui étaient extrêmement utiles. Alors que ben, dans le continent américain, tous les chevaux avaient été exterminés par les chasseurs-cueilleurs. Ils avaient le seul animal, grand animal qui était domestiqué, c'était le lama dans l'Empire Inca et dans les Andes. Et il ne pouvait pas être adapté au Mexique. C'était un animal de montagne qui a jamais été au Mexique. Donc voilà. Alors que nous, on avait les chevaux, les vaches, les moutons, des tas d'animaux extrêmement pratiques qui nous ont apporté énormément. Bon, tout un tas de facteurs extrêmement intéressants. Quand on lit ça, on fait waouh, c'est vraiment, vraiment passionnant. Moi, j'ai dévoré ce bouquin.
L'histoire, comme on l'a jamais
synthétisée, des dizaines de milliers d'années d'histoire condensées en un bouquin. Et en plus, il s'intéresse vraiment à tous les continents, l'Australie, et pourquoi l'Australie était le plus pauvre, le moins développé, etc. Pourquoi, quand les Européens sont arrivés, les Aborigènes, ils n'avaient même pas d'arc, quoi. C'était pour dire à quel point ils étaient en retard technologiquement par rapport aux autres. Donc, très, très intéressant. Voilà, je pense que c'est le seul bouquin que j'ai partagé parce que ça fait combien de temps là? Ça fait déjà un peu 30 minutes qu'on discute. Donc, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Qu'est-ce qu'on fait d'habitude sur Tiens-toi une bûche?
Je sais pas, ça fait tellement longtemps.
Bon, donc ouais, un bouquin ça suffit vu que Michael devait partir à 15h, les 15h25, donc il est juste un peu en retard, c'est pas.
Oui,
hein, voilà. C'est une vraie tire-toi une bûche, c'est quand on met les gens en retard, c'est super.
Exactement.
Hey! Merci d'avoir écouté ce MP3 qui est tiré d'une vidéo publiée sur la chaîne YouTube. Donc, comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous aimez écouter ces podcasts sur iTunes, eh bien, allez tout simplement sur iTunes pour noter cette émission. Voilà, donnez-lui une note si vous l'appréciez. Et puis, comme d'habitude, vous pouvez voir les vidéos originales desquelles sont extraits les podcasts en allant sur olivier-roland.tv. Hein, olivier-roland, R-O-L-A-N-D.tv. Merci d'avoir écouté ce podcast. À demain pour de nouvelles aventures dans le prochain.